avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Dans un instant, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, dans nos différents journaux, et bien surtout, n'hésitez pas, où que vous soyez à travers le monde, appelez-nous, rejoignez-nous ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, RFI, appel sur l'actualité. Vous savez, tous les matins, nos correspondants, nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux se font un plaisir de vous répondre, donc profitez-en, c'est jusqu'à 10h30, heure de Paris. Et puis, dans 30 minutes, nous lancerons, comme tous les matins, un débat, et nous parlerons tout à l'heure de la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre en République démocratique du Congo. Vous savez que la nomination d'un Premier ministre était très attendue, elle était même censée débloquer la crise politique qui perdure depuis la signature le 31 décembre de l'accord conclu entre la majorité et l'opposition, accord qui stipule que le nouveau chef du gouvernement doit être issu du rassemblement de l'opposition. Seulement voilà, le nouveau Premier ministre est certes issu de l'opposition, mais il n'est plus membre du rassemblement. Bruno Tshibala en a été exclu en février. Du coup, l'opposition et l'Union européenne dénoncent une violation de l'accord. Alors comment apaiser le climat politique en République démocratique du Congo? Vos réactions toujours au standard, 33 9 693 693 70. Et je lirai évidemment quelques-unes de vos nombreux commentaires postés sur la page Facebook de l'émission. Nous passons donc au standard avec une première question. On va revenir sur le projet de révision constitutionnelle au Bénin. Bonjour Walid.
Bonjour monsieur.
Vous êtes à Cotonou, on vous écoute.
Merci. Après le rejet du projet de révision de la constitution béninoise, le président Patrice Talon a annoncé qu'il renonce à la révision, pourtant une de ses principales propositions de campagne. Comment peut-on expliquer une telle volte-face immédiate?
Ah, c'est vrai, c'est une bonne question. La révision est derrière moi, c'est fini, a déclaré le président Patrice Talon samedi soir à la télévision béninoise. Et lundi matin sur RFI au micro de Christophe Boisbouvier, il a confirmé ses propos en affirmant qu'il n'y aura pas de réforme. Bonjour Delphine Bousquet.
Bonjour Juan et bonjour Walid.
Merci d'être avec nous, vous êtes la correspondante d'RFI au Bénin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président Talon a essuyé un revers politique après la décision de l'Assemblée nationale de refuser d'examiner son projet de révision constitutionnelle. Pourquoi a-t-il abandonné aussi vite son projet?
Eh bien, le chef de l'État a été déçu. Il l'a dit lors de son entretien télévisé samedi soir. Il ne s'attendait pas à ce rejet. Il a manqué 3 voix, c'était serré. Et Walid l'a rappelé, c'était un engagement fort du candidat. Et pour lui, l'échec tient à des raisons politiques. D'après un député que j'ai interrogé, Patrice Talon a compris que ça ne dépendait pas que de lui. Alors si on s'en tient à ses propos, il renonce parce que maintenant il faut passer à autre chose, s'occuper des Béninois et se consacrer à la réalisation du programme d'action du gouvernement.
Oui, en tout cas Patrice Talon a surpris en annonçant qu'il abandonnait son projet de révision.
Absolument. Et d'ailleurs, un journaliste lui a fait remarquer qu'il n'était pas le genre de personne à reculer à la première difficulté. Et une preuve que beaucoup de citoyens, d'analystes, de journalistes ont du mal à croire que ce projet puisse être si vite rangé au placard. C'est ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, où se tient en ce moment la première session ordinaire de l'année. Les 60 députés qui avaient voté la semaine dernière pour l'examen sur le fond du projet de révision ont lu une déclaration à la tribune de l'hémicycle. Ils ont fait part de leurs regrets et justifier le bien fondé de leur vote favorable. Ils ont écrit, nous voulions nous saisir du projet gouvernemental pour l'amender et en faire un document consensuel. Évidemment, ça s'est vite retrouvé sur les réseaux sociaux, qui ont annoncé que les députés révisionnistes voulaient réintroduire le texte, parce que sur ces réseaux sociaux, on avait mal lu la déclaration, on avait mal compris, et c'était devenu « nous voulons nous saisir du projet », qui est très différent. Le député Akin attendait leur porte-parole que j'ai joint hier soir, m'a dit « c'est faux, on ne va pas réintroduire le projet. On a pris acte de la décision du président, mais il est possible que cette conviction qu'un texte sera réintroduit d'une façon ou d'une autre reste quand même un bon moment. »
Bon, à suivre donc. Walid, vous avez une autre question? Ah, Walid a coupé, le réseau vient à l'instant même de se couper. Et je me fais donc son porte-parole puisqu'il voulait savoir si maintenant que Patrice Talon a abandonné son projet de révolution. Peut-on s'attendre à ce que le président Talon effectue un second mandat? Alors, on a envie de répondre d'abord, encore faut-il qu'il soit réélu, mais la vraie question, Delphine Bousquet, c'est de savoir s'il entend bel et bien briguer un second mandat. Est-ce qu'il sera candidat en 2021?
Bon, alors là encore, il faut s'en tenir à ce qu'il a dit dans son entretien de samedi soir. Patrice Talon a été clair lorsque, justement, on lui a demandé s'il serait candidat dans 4 ans. Je cite sa réponse. 2021, c'est loin, mais j'aviserai en fonction de mon ressenti. Ce qu'il a dit pour justifier sa position à ceux qui lui reprochent de ne pas tenir sa promesse de ne faire qu'un mandat, c'est que le mandat unique aurait été valable pour lui. Ce n'est pas passé, donc la forme actuelle, 5 ans renouvelables une fois, est aussi valable pour lui. Mais plusieurs observateurs que j'ai sollicités s'interrogent. Ils pensent qu'il a dit ça peut-être un peu sous le coup de la colère, un peu comme pour se venger, comme ont déclaré certains commentateurs. Ils expliquent que Patrice Talon n'est pas un homme politique au sens traditionnel du terme et il n'est pas sûr qu'il choisisse de trahir sa parole, surtout qu'il a souvent répété qu'il voulait laisser une trace positive dans l'histoire du Bénin. Mais Juan, tout est possible dans la politique béninoise et nous ne savons pas ce que sera le ressenti de Patrice Talon d'ici 4 ans.
Et à mon avis, on en reparlera dès vendredi dans la Libre Antenne, puisque vous connaissez le principe du vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix, et vous pourrez, si vous le souhaitez, évidemment, revenir sur l'interview que le président béninois a accordée en début de semaine à Christophe Boisbouvier sur l'antenne d'RFI. Merci Delphine Bousquet, et on remercie Walid qui nous appelait de Cotonou. Walid, on a bien répondu à vos questions ?
Bien sûr, oui. Il y avait encore une seconde question.
Ah bon, on a répondu justement, c'était pendant le temps qu'on vous rappelait, etc. On a tout fait en même temps parce que le réseau s'est coupé. Bon, enfin voilà, on est satisfait. On vous remercie en tout cas de votre fidélité à Cotonou. Il est 10h17 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Mamadi, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes en Guinée, à Conakry,
de la RFI.
Et vous avez des questions après les 2 attentats de dimanche en Égypte.
Effectivement Juan. Dimanche dernier, 2 attentats revendiqués par l'EI ont eu lieu à Alexandrie et attentats contre des églises coptes qui ont fait 44 morts. Ma première question est la suivante. Depuis décembre, la communauté chrétienne a subi 3 attentats. Pourquoi la communauté chrétienne d'Égypte est une cible privilégiée des terroristes de l'État islamique? La deuxième, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour protéger la communauté chrétienne d'Égypte?
C'est vrai que ce n'est pas la première fois que les Coptes égyptiens sont la cible de l'organisation État islamique. Il y a eu ces 2 attaques dimanche, mais vous le disiez à l'instant, Mamadi, en décembre, un attentat kamikaze dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire avait fait 27 morts. Bonjour Wassim Nasr.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des réseaux djihadistes. Vous avez publié aux éditions Plomb État islamique, le fait accompli. Expliquez-nous pourquoi cette communauté chrétienne est-elle exposée à la violence de l'organisation État islamique.
Très bien. Déjà, il faut rappeler qu'il y a eu certainement l'attentat en décembre, mais il y a eu aussi des exécutions sommaires au Sinaï dernièrement. Donc contre des Coptes qui habitent le Sinaï. Il faut rappeler aussi que la première attaque donc de l'EI contre les Coptes s'est passée à l'extérieur de l'Égypte. C'était en Libye. On se rappelle tous de cette vidéo d'exécution où 21 Coptes ont été exécutés, égorgés sur la plage de Sirte. Et donc, maintenant, pour revenir à la question pourquoi, il y a 2 raisons. La première raison est que l'État islamique essaie de capitaliser sur les problèmes sociétaux entre la communauté copte et le reste de la communauté égyptienne, donc la majorité arabe sunnite, et qui sont des problèmes historiques, ancestrales, d'animosité entre les 2 communautés qui peuvent parfois exploser en violence par-ci et par-ci ou par-là. Donc l'État islamique essaye de capitaliser là-dessus et d'enfoncer le clou, hein, si je puis dire, en créant une situation qui va être, qu'il espère, qui sera similaire aux frictions sunnites, par exemple, en Irak ou en Syrie.
Donc si je comprends bien, Wassim Nasr, si je comprends bien, il y a vraiment une volonté de diviser le peuple égyptien.
Il y a une volonté de capitaliser sur les divisions déjà préexistantes, c'est ça. Ça veut dire, lui, qu'est-ce qu'il espère ? Il espère qu'en attaquant les chrétiens vont peut-être créer des milices d'autodéfense à coup d'attentat, et que ces milices d'autodéfense vont faire des exactions contre d'autres musulmans. Là, on parle des zones rurales, bien sûr, en Égypte, et que comme ça, la mèche sera allumée, et que ça causera un embrasement dans un pays de 90 millions d'habitants, quand même. Parce que lui, c'est dans ces cas-là qu'il peut capitaliser, qu'il peut se renforcer. D'un autre côté, les explications entre guillemets que l'État islamique donne, c'est qu'il estime que les Coptes sont des chrétiens combattants, comme par exemple les Éthiopiens. Pourquoi ? Parce qu'il estime que les Coptes ont soutenu donc le général Sisi quand il a pris le pouvoir, et que du coup, de ce fait, ils font partie des ennemis hein, de l'État islamique, au même titre par exemple qu'aux Éthiopiens qui interviennent en Somalie. Voilà, ça veut dire le pacte de non-agression qu'il y a entre musulmans et chrétiens dans ces contrées du monde, à ce moment-là, pour l'État islamique, bien sûr, il ne s'applique plus.
Ouais. Donc, voilà, on a pu entendre, Wassim Nasr, certains observateurs, et ça m'intéresserait d'avoir votre analyse sur ce point précis, affirmer que si l'organisation État islamique s'attaque aux chrétiens d'Orient et s'attaque donc aux Coptes, c'est d'une certaine façon aussi s'attaquer à l'Occident. Qu'en pensez-vous ?
Non, je pense pas, parce que je pense que ça reste des dynamiques très 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 locales. Hein. Il faut pas tout mélanger. La dynamique, elle est très locale. Je vous ai dit, l'État islamique essaie d'accentuer les frictions entre sunnites et coptes qui existent déjà, hein, qui sont historiques. Il faut pas l'oublier. Il y a eu des assassinats, il y a eu des lynchages de femmes de part et d'autre. Il y a une fameuse histoire où il y a des femmes coptes qui se sont mariées avec des musulmans et qui ont été assassinées par la famille copte ou disparue. Donc c'est ça les histoires sur lesquelles l'État islamique essaie de capitaliser. Et encore une fois, ce n'est pas toujours en rapport avec l'Occident.
Ouais.
Le message est de dire, on va essayer d'embraser l'Égypte et on va essayer de capitaliser sur des problèmes préexistants. Parce que s'il n'y a pas de problème préexistant, l'idéologie donc djihadiste ne peut pas fructifier. Et si l'idéologie, ça va de pair. Donc sans les problèmes, l'idéologie ne peut pas fructifier et l'idéologie toute seule, elle ne peut pas fructifier. Il faut les deux éléments.
En quelques mots, Wassim Nasr, Mamadi nous demandait quelles mesures concrètes comptait prendre le gouvernement égyptien pour protéger les chrétiens d'Égypte.
Les mesures concrètes, bon, après là, l'état d'urgence a été annoncé, mais on sait tous déjà que l'Égypte est un état policier, donc moi je vois pas comment l'état d'urgence va arranger les choses, je pense que plutôt ça va les empirer, dans le sens où il y aura des exactions de l'appareil étatique. Hein. Il faut aussi rappeler quelques trucs, c'est que l'État islamique n'existait pas avant la prise de pouvoir du général Sisi, c'était un petit groupe, un Farbaït Mabdis, constitué de Gazaouis, de quelques personnes du Sinaï, pas plus d'une centaine, mais c'est après la prise du pouvoir par le général Sisi, la destruction de plusieurs villages à la frontière avec Gaza, avec Israël, pour arrêter les trafics, où l'État islamique a eu une sorte d'appel d'air, et il a commencé à monter en puissance dans le Sinaï.
Ouais.
Hier, ils ont par exemple diffusé une vidéo où ils s'attaquent à l'armée, ils montraient qu'ils s'attaquaient à l'armée d'une manière journalière. Le fait d'attaquer Tanta, et Le Caire et Alexandrie avec ce résultat, ça prouve aussi qu'ils essaient d'élargir le scope de leurs actions à toute l'Égypte, ce qui est à prendre très 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 au sérieux.
D'ailleurs, précisons et signalons que la branche égyptienne de Daesh est aujourd'hui la plus puissante en dehors de celle qui est présente en Irak et en Syrie. Merci beaucoup Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des réseaux sociaux. Mamadi, bonne journée à Conakry. Ce sont vos questions, vous nous appelez et nous vous répondons. Godo, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous ceux qui travaillent dans l'ombre à RFI.
Merci de vos encouragements. Vous êtes au Bénin et vous avez des questions après l'attentat de vendredi dernier au camion Bélier à Stockholm.
Oui, comme pour Saint-Pétersbourg en Russie la fois passée, l'attentat en Suède a été perpétré par un Ouzbek appartenant au MIO, le mouvement islamique de l'Ouzbékistan. Je veux savoir quelle est l'origine et l'influence de ce groupe qui a prêté allégeance à l'État islamique en 2015.
Alors, vous avez raison de dire que l'auteur de l'attaque de Stockholm est ouzbek, tout comme celui de l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg la semaine dernière. On peut même rappeler aux auditeurs que l'attentat contre une boîte de nuit à Istanbul, la nuit de la Saint-Sylvestre, vous en souvenez certainement, avait également été perpétré par un homme de nationalité ouzbek. Bonjour Ahmed Ramanov.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct d'Ouzbékistan, dans la capitale à Tashkent. Vous êtes spécialiste du djihad ouzbek, chercheur associé au Centre des études de sécurité régionale. Notre auditeur commet une petite erreur, mais on le comprend évidemment, puisqu'il entend que des ouzbeks commettent des attentats. En même temps, il entend parler de ce fameux mouvement, le mouvement islamique d'Ouzbékistan. Les trois attentats dont nous parlons, Stockholm, Saint-Pétersbourg et Istanbul, n'ont pas été commis par tous des membres de ce fameux mouvement.
Oui, tout à fait. Je pense que dans la question, il y a une petite, ça a besoin d'une petite précision, parce qu'on a associé des Ouzbeks souvent à ces mouvements, mais sauf que dernièrement, les Ouzbeks qui ont commis l'attentat, ils ne sont, sont pas liés à ces mouvements, mais ils sont plus liés aux groupes terroristes en Syrie. Donc du coup, je pense qu'il faut, il vaut mieux de parler d'une radicalisation des Ouzbeks exclusivement, oui, que mouvement islamique Ouzbékistan, qui est un mouvement qui n'est plus actif comme avant.
Voilà, c'est un mouvement qui a perdu. Surtout, qui a perdu de sa vigueur. C'est vrai que dans les années 90, ils commettaient des attentats, ils se sont même, ils ont même combattu en Afghanistan aux côtés des talibans. Mais justement, comment expliquer la radicalisation de plus en plus d'Ouzbeks? Ça vient d'où exactement? Expliquez-nous.
Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, moi, je voudrais préciser que il faut étudier le cas par cas. Donc, c'est pas, pour l'instant, aujourd'hui, le terrorisme n'a pas une nationalité précise. Donc, on l'a bien vu avec les Français au rang de Daesh, que ce soit d'originaire de Maghreb ou de Daesh, de France, je veux dire. Il y a plus d'une nationalité vraiment. Mais sauf qu'il y a des facteurs communs qui sont pour les Ouzbeks, c'est le facteur historique. Par exemple, historiquement, dans les années 90, les Ouzbeks, ils étaient très, très politisés. Les Ouzbeks ethniques, ils étaient très politisés, mais cette politisation est passée par l'islam politique. Donc, ces facteurs, ils jouent un rôle très, très important. Donc, cela a produit, enfin, cela a produit des idéologues comme Jumana Mangani ou Abdoual Kore qui ont créé une plateforme solide en Ouzbék vers l'islam politique en Asie centrale.
Certains disent, Ahmed Ramanov, que la nature dictatoriale du pouvoir en Ouzbékistan a généré justement ce djihadisme en Ouzbékistan. Vous en pensez quoi, vous?
Bah justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est la politisation de l'opposition, mais via l'islam politique. Donc ça veut dire que c'est les opposants qui étaient opposants au pouvoir, ils ont utilisé beaucoup de l'image de l'islam, comme un instrument pour atteindre le pouvoir. Mais par la suite, ça a été très radicalisé. Dans les années, à la fin des années 90, cette tendance a été baissée. Mais c'est l'autre tendance qui est arrivée récemment, c'est le phénomène de Syrie. Donc c'est parmi les émigrés qui sont en Russie, en Turquie, même en Europe, il y a une sorte de recherche à l'identité, une protection d'identité via l'islam. Politique, je dirais. Donc, il y a le facteur immigration, mais après, il y a un facteur, bien sûr, l'intolérance de la société et le gouvernement en Ouzbékistan contre les radicaux. Donc, par exemple, en Ouzbékistan, les radicaux, c'est très difficile d'être radicaux et de vivre. Donc, non seulement à cause de la pression de la part de l'État, mais aussi de jugements très sévères de la part de la société. Donc cela amène à ce que les radicaux ouzbeks ont tendance à quitter le pays afin de trouver des milieux plus tolérants au radicalisme religieux. Ouais. Par exemple, en Ouzbékistan, toutes les organisations radicaux comme Hizb ut-Tahrir ou que ce soit le mouvement de Gulen, ils sont interdits. Donc, dans le cas de l'attaque terroriste en Suède, il est important de noter qu'en Suède, les organisations radicales, mais qui se disent non violents, comme le dit Parfait, ne sont pas interdites.
Ouais. Merci beaucoup, Ahmed Ramanos, vraiment, d'avoir été avec nous, parce que c'est important et c'était intéressant, pour une fois, de s'intéresser justement aux...